Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Géopolitique est à Marrakech, au Maroc, où se tient ce week-end la 12e édition de la World Policy Conference. Nos invités, Thierry de Montbrial, fondateur de la World Policy Conference et président de l'Institut français des relations internationales. Bonjour.
Bonjour.
Renaud Girard, grand reporter, éditorialiste au quotidien Le Figaro, avec une chronique le mardi dans le journal. Bonjour.
Bonjour.
Et Michel Fouché, géographe, titulaire de la chaire de géopolitique appliquée au Collège d'études mondiales de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Bonjour.
Bonjour.
La WPC rassemble depuis 12 ans plus de 200 experts des relations internationales. Au menu cette année, la montée de la Chine, la guerre commerciale, l'avenir du système financier international, la cybermenace et le terrorisme. Thierry de Montbrial, dans votre discours d'ouverture de la conférence, vous avez parlé de cette Amérique qui préfère la guerre économique à toute autre guerre, d'une confiance dans les États-Unis qui s'effrite. On va commencer par l'actualité internationale, celle qui prévaut à la frontière syro-turque. Que pensez-vous de l'attitude des États-Unis d'une part et de celle de la Turquie?
En ce qui concerne les États-Unis, vous savez, il n'y a rien de vraiment nouveau. La longue histoire des États-Unis montre qu'ils peuvent laisser tomber du jour au lendemain les gens qu'ils ont soutenus et même leurs alliés formels. Je lisais l'autre jour un excellent article de Renaud Girard qui rappelait le retrait des Américains en 1975 et les drames qui s'en sont suivis au Cambodge. Mais on peut penser au Pakistan aussi, qui a été le point de départ, le retrait du Pakistan qui a été le point de départ d'Al-Qaïda. Et plus récemment, en 2011, dans le cadre du fort mal nommé printemps arabe, quand ils ont laissé tomber du jour au lendemain Moubarak, ce qui a créé la stupéfaction aussi bien en Arabie Saoudite qu'au Maroc d'ailleurs, où nous sommes, et donc le lâchage des Kurdes, et pire encore d'ailleurs les hésitations, mais ça c'est un autre problème de Trump sur ce qu'il convient de faire, sur sa stratégie, tout ça, et là ça s'inscrit dans une longue durée. Alors ce qui est nouveau mais sans l'être, pour dire les choses extrêmement brutalement, c'est que pour quelqu'un comme moi, l'Alliance Atlantique est devenue irrelevant, comme on dit en anglais.
Inadaptée.
Inadaptée depuis la chute du mur de Berlin. Et on évolue. Et donc le système d'alliance a perdu aussi la crédibilité qu'il a eue pendant la guerre froide. Donc tout ceci va ensemble. En ce qui concerne la Turquie, juste un mot, on en débattra sûrement, mais en ce qui concerne la Turquie, on assiste depuis l'avènement d'Erdogan à un début de changement, enfin plus qu'un début d'ailleurs, de l'attitude de la Turquie vis-à-vis, bien entendu, des Occidentaux. Mais la Turquie est en train actuellement de se chercher une nouvelle place dans le système international. Je crois que l'histoire n'est pas entièrement écrite encore. Il peut y avoir encore beaucoup de revirements. Mais ça fait partie, je crois, de tous les grands bouleversements en cours. Je dirais que c'est le monde post-soviétique, 30 ans après.
Alors, acte de trahison de la part de Washington à l'encontre des Kurdes et une capitulation de Donald Trump face au président turc, Renaud Girard.
Alors, je crois que l'acte de trahison, il est très clair, hein, puisque, en fait, les Américains ont promis qu'ils allaient démanteler l'État islamique, mais en fait, les troupes sur place, l'infanterie, si vous voulez, c'était les Kurdes syriens du YPD, ou ce qu'on appelle les forces démocratiques syriennes, qui sont principalement kurdes, mais aussi avec quelques Arabes progressistes dans leur sein. Vous savez, ce sont des unités qui sont pas du tout islamistes. Il y a même quelques femmes qui combattent dans certaines unités féminines et qui ne sont pas voilées. Et donc, ces gens-là ont aidé et ont permis la reprise des territoires qui avaient été pris par l'État islamique, notamment, par exemple, de Raqqa, en avril 2017. Et ce sont eux qui tiennent prisonniers plus de 100 000 djihadistes et leurs familles qui se sont rendus après la chute territoriale de l'État islamique. Donc là, c'est effectivement une trahison en rase campagne. Alors, est-ce que Donald Trump est impressionné par Erdogan? Je ne crois pas. Je crois que il aime faire des deals. En fait, Donald Trump, il est un peu comme dans un jeu d'immobilier à New York, et il aime bien avoir des partenaires puissants. Et il se dit, Poutine, c'est un partenaire puissant, Xi Jinping, le Chinois aussi, Erdogan aussi, on peut faire des deals ensemble. Et il a pensé qu'il allait pouvoir faire un deal qui correspondait
à ses promesses électorales. Ce qui est très important chez Trump, et la seule chose qui compte d'ailleurs, c'est
le retrait.
Remplir ses et donc se retirer de toutes ces régions bizarres où il y a, comme il dit, des tribus de ces peuples qui ne sont pas venus, comme a dit Trump, nous aider en Normandie. Il n'y avait évidemment ni les Kurdes, ni les Turcs, bien sûr, dans le débarquement de Normandie du 6 juin 1944. Et voilà. Mais maintenant, il y a une levée de bouclier au sein de son propre camp, c'est-à-dire au sein de l'establishment militaire américain qui est principalement républicain, qui a honte de cet abandon des Kurdes, et aussi des sénateurs républicains au Congrès, menés par Lindsey Graham, qui disent à Trump, tu peux pas faire ça. Et comme il a besoin de ses sénateurs républicains, puisqu'il est soumis à une procédure de destitution, on est en train de voir en ce moment même Trump reculer et envoyer des messages de plus en plus clairs à Erdogan en disant « bats les pattes, il faut que tu t'arrêtes maintenant ».
Michel Fouché.
Je crois qu'il y a une obsession turque qui date d'avant Erdogan sur le fait que les Kurdes du nord-est de la Syrie étaient la base arrière du PKK. Les liens organiques sont très forts, même si Öcalan est en prison. Et deuxièmement, bon, les Kurdes sont des peuples dispersés qui ont beaucoup de sympathie en Europe, mais pendant cette tragédie syrienne, ils en ont profité, avec l'accord de Damas d'ailleurs, pour élargir leur territoire tout le long de la frontière. Ils ont même essayé de passer l'Euphrate. Et là, ils ont fait une erreur parce qu'ils se sont livrés dans une plaine qui s'appelle la Djezire, qui est une plaine relativement bien arrosée, à une véritable purification ethnique aux dépens des Arabes du nord de la Syrie, qui sont maintenant les supplétifs de l'armée turque. C'est-à-dire que ce sont eux qu'on va mettre en avant. Alors, c'est toujours pareil, la sympathie pour des causes nationales nous aveugle parfois sur la réalité des choses. Donc, ces Arabes chassés ont un compte à régler avec les Kurdes, et ça, c'est plutôt, malheureusement, en faveur d'Erdogan. Mmh. Le principal inconvénient pour nous, c'est le fait qu'il y a 2000 djihadistes radicaux européens que Trump nous invite à rapatrier, en quelque sorte. Hein. Mais ça, c'est un vrai problème de sécurité dans l'immédiat. Mais sur le fond et sur le long terme, pour reprendre une catégorie très justement chère à Thierry, les Occidentaux ont perdu prise sur ce qui se passe dans la région. On n'est plus en 1916. Et donc, il faut laisser les États les plus puissants réorganiser des empires et des marches, la Turquie, la Perse, l'Iran, avec le facteur israélien, l'Arabie saoudite ayant finalement un peu perdu la main. C'est ce qui est en train de se passer. Et la Russie agissant, à mon avis, plus comme puissance régionale dans cette région, qui considère, c'est le même théâtre stratégique pour la Russie, des Balkans en gros à la Caspienne. Hein. C'est, depuis les Tsars, elle agit là comme puissance régionale, même si elle survend ce qu'elle fait, ses quelques succès au plan international. Donc on est dans cette période-là, et les empires doivent se battre pour fixer les limites des marches. C'est à ça qu'on assiste actuellement.
Alors Thierry de Montbrial, il est sans doute trop tôt pour dire à quoi cet abandon américain va mener. Qu'est-ce qui est à craindre ?
Ce qui est à craindre, vous dire, au-delà du Moyen-Orient, le Moyen-Orient toujours lié à l'affaire kurde. Bon, ce qui est à craindre, c'est que le chaos au Moyen-Orient ne continue de s'approfondir. Parce que, pour dire les choses simplement, il y a 3+1 vraies puissances régionales dans la région. Il n'y en a pas 36. Hein, les 3 puissances, c'est la Turquie, l'Iran et l'Égypte. Bon. Plus une, enfin, il y a Israël, et est-ce que l'Arabie saoudite est vraiment une puissance ? C'est une question que l'on peut poser depuis longtemps. Elle est une puissance en ce sens qu'elle a des moyens, mais si on gratte un petit peu la notion de puissance, on voit qu'elle en est en fait très largement dépourvue. Et ce qui vient de se passer aussi avec le bombardement de ces sites pétroliers montre que c'est tout de même un peu un tigre en papier, voyez-vous. Alors, les vraies puissances, c'est celles que j'ai dites. Et puis, vous avez les puissances extérieures. Ces puissances extérieures, c'est toujours les mêmes. C'est les États-Unis, parce que c'est l'héritage du XXe siècle, c'est évidemment la Russie, grande puissance régionale, et tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Michel Fouché là-dessus. D'une certaine manière, c'est l'Europe, si tant est qu'on puisse parler de l'Europe, on ne peut pas en parler comme d'un tout, mais malgré tout, il y a encore un résidu de puissance potentielle européenne. Voilà. Alors, il n'y aura un nouvel ordre dans la région que le jour où il sera possible de mettre tout ce beau monde d'accord sur des règles du jeu. On en est très loin.
Géopolitique.
Renaud Girard, alors finalement, quels avantages et quels dangers pour chacun, Bachar el-Assad d'un côté, les Iraniens, les Turcs, Moscou?
Pour le moment, nous sommes, nous Européens, dans une position assez inconfortable, puisque nous sommes dominés, nous subissons un chantage qui est explicite du président turc Erdogan, qui dit « vous n'avez pas le droit de condamner l'invasion que je fais du nord de la Syrie ». Nous sommes assez liés avec les Kurdes syriens, parce que nous, Français, nous avons 5 bases, enfin, qui sont adjacentes des bases américaines, entre Kobané au nord et Raqqa au sud, dans toute cette zone, à l'est de l'Euphrate, dont a parlé Michel. Nous avons des troupes et nous avons une coopération importante avec ces Kurdes syriens pour battre l'État islamique. Donc là, il nous fait un chantage en disant « si vous qualifiez cette invasion d'invasion, je vais vous envoyer 3 500 000 réfugiés en Europe ». Et ce qu'il propose de faire, c'est de faire une sorte de corridor, n'est-ce pas, au nord de la Syrie, de prendre ce territoire. C'est, comme l'a dit Michel Fouché, une marche que déjà le Premier ministre Menderes, en fin des années 50, souhaitait prendre. Et pour y installer tous ces réfugiés syriens, qui seraient évidemment manipulés et guidés et commandés par ces rebelles arabes dont Michel a parlé, mais Michel a oublié de dire que c'était quand même pour la plupart des islamistes purs et durs, je dirais. Et donc, on risque d'avoir une sorte de zone, je dirais, turco-islamiste ou frère musulman, qui serait un instrument, un bras armé de chantage d'Erdogan contre nous. Il est temps que l'Europe, effectivement, s'organise, s'unisse, protège ses frontières et ne puisse plus subir les menaces et les chantages du nouveau sultan néo-ottoman, parce que c'est comme ça qu'on peut désormais appeler Monsieur Erdogan.
Alors, nécessité que l'Europe s'organise, on reviendra sur les soucis actuels de l'Europe, Michel Fouché. Pour l'instant, on a juste entendu d'éventuelles menaces de sanctions économiques à l'encontre de la Turquie et, en ce qui concerne le Conseil de sécurité des Nations Unies, un conseil qui s'est montré plutôt timoré.
Oui, parce qu'il n'y a pas d'accord. Les Chinois et les Russes n'ont pas soutenu une initiative franco-allemande. Et en effet, Erdogan a commencé, il y a déjà ce qu'on appelle les signaux faibles. Il y a depuis quelques semaines 15 000 personnes qui ont été en quelque sorte exfiltrées vers l'île de Lesbos, brusquement. Même si c'est un chantage qu'il faut évidemment refuser absolument, on devrait d'ailleurs le dénoncer, je trouve, de manière plus explicite. Et c'est vrai que son intention, c'est de réinstaller ces réfugiés, mais pour faire une espèce de cordon de sécurité. Alors, en même temps, je pense pas que le Pentagone va suivre les semi-instructions de la Maison-Blanche, et du côté de l'état-major français, je note pas de changement pour l'instant. Donc on va rester sur place, parce que là, on a vraiment un intérêt vital de sécurité. Donc, assez vite, on va se trouver dans une situation assez curieuse où on aura des Français d'un côté, des Turcs de l'autre, tout ça à l'intérieur de la même alliance, avec des Américains. Il y a eu quelques départs, je sais pas, 150 soldats qui sont partis, maximum, mais je ne pense pas que le Pentagone va modifier ses plans.
Alors, pour vos auditeurs, simplement préciser qu'il y a 1200, simplement pour préciser pour les auditeurs, il y a à peu près 1200 Américains entre donc ces bases du nord là de Kobané vers Raqqa, avec à peu près un quart en plus de Britanniques et de Français. Voilà à peu près les forces qui sont sur place.
Thierry de Montbrial, vous évoquiez la mise à mal de la relation transatlantique. J'aimerais qu'on dise deux mots sur les États-Unis. On voit l'exécutif américain élargir son autonomie, le Congrès qui est opposé au lâchage des alliés kurdes, Renaud Girard l'a dit, et le pouvoir américain qui a ignoré les rapports successifs du Pentagone sur la résurgence de l'État islamique. Est-ce que Trump est en train de détruire la démocratie américaine ?
Bon, c'est une vaste question. Alors je crois qu'il faut en effet distinguer d'abord les aspects extérieurs. Je crois qu'il y a quand même des lignes de force de la politique extérieure américaine. Et nous sommes dans une phase aujourd'hui qui a commencé essentiellement depuis la chute de l'Union soviétique. Nous sommes dans une phase de redéfinition plus égoïste, si je puis dire, des intérêts nationaux américains. L'intérêt national est toujours là, mais il est défini sur des bases beaucoup plus étroites. Il y a eu des hésitations, des allers-retours, mais enfin, on est sur une tendance. On l'a bien vu d'ailleurs aussi avec Obama, n'est-ce pas ? C'est tout à fait dans cette ligne-là. Ça continue avec Trump. Alors, dans le cas de Trump, s'y ajoute une autre dimension qui est celle d'un président, comment le qualifier, populiste peut-être, qui rompt tous les codes. Alors, je ne fais pas seulement allusion à ses caractéristiques personnelles, mais le fait qu'il rompt, il tourne le dos aux pratiques ancestrales de la diplomatie. Et là, c'est quelque chose de très grave, parce que quand on exprime sur des tweets sa dernière pensée du moment, quand on méprise ses collaborateurs, qu'on ne tient pas compte du savoir, de l'expertise, qu'on est fier d'être ignorant, et comme on le disait tout à l'heure, ne connaît rien de l'histoire du Moyen-Orient, par exemple. Donc il a cette espèce de certitude de l'ignorant, qui ne sait pas qu'il ne sait pas. Et donc, il tweet n'importe comment. Et là, en effet, il y a une dimension très grave. Si vous permettez, je vais prendre un exemple concret. Bon, mettons-nous, si nous y arrivons, à la place de Kim Jong-un, c'est pas le dictateur nord-coréen, qui, je crois, est un gros malin dans tous les sens du terme, lui. Et ce gros malin, là, il joue avec l'ego, d'ailleurs, de Trump. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit bien que si on voulait aller un petit peu plus loin, il faudrait rentrer dans une véritable phase diplomatique. Donc il faudrait redonner à la diplomatie son sens pour négocier quelque chose qui supposerait de faire finalement quelque chose comme le JCPOA, quelque chose du genre de l'accord nucléaire avec l'Iran. Et on voit bien que d'un côté, Trump a créé, il faut bien le reconnaître, les conditions qui rendraient possible une négociation de ce genre, et en même temps, il en sape la possibilité du fait qu'il a détruit les règles de la diplomatie classique. Voilà. Alors, pour conclure, si vous voulez, je crois que la question plus vaste que vous avez posée, est-ce qu'il est en train de saper la démocratie américaine ? Mais là aussi, je vous dirais qu'il y a des choses plus profondes que Trump. Parce que Trump, est-ce que c'est une cause ou est-ce que c'est un effet ? Parce que ça fait quand même un certain nombre d'années que l'on voit les divisions abyssales à l'intérieur du Parti conservateur, mais qu'on voit aussi l'explosion du Parti démocrate. Et en effet, moi, je crains pour l'évolution de la démocratie américaine. Et pardonnez-moi de rajouter encore un vraiment dernier mot, qui est, moi je me souviens, nous avons tous les trois connu Stanley Hoffman dans le temps, et un jour je lui ai posé, quand j'étais très jeune, la question comment peut-on définir en un mot l'identité américaine ? Il m'a dit, en un mot, c'est la Constitution. C'est le respect, justement, de règles du jeu, qui va très très loin. Ils ont toujours respecté les règles du jeu pour la première élection de George W. Bush, qui a été faite à une voix de majorité par la Cour suprême. Bon, ça n'a pas été remis en question parce que c'était la Constitution. Je crains qu'aujourd'hui, il y ait un risque sur le respect de la Constitution américaine, et peut-être verra-t-on d'ailleurs M. Trump lui-même contester, qui sait, les résultats de la prochaine élection présidentielle.
Alors, risque sur le respect de la Constitution américaine, on poursuivra dans la deuxième partie. Géopolitique depuis Marrakech, où se tient ce week-end la World Policy Conference. Nous retrouvons nos invités, Thierry de Montbrial, Renaud Girard et Michel Fouché. Après le journal, à tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique depuis Marrakech au Maroc où se tient ce week-end la 12e édition de la World Policy Conference. Nous retrouvons Thierry de Montbrial, le fondateur de la WPC et président de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Renaud Girard, éditorialiste au Figaro, grand reporter et la chronique de Renaud Girard que nous retrouvons le mardi dans le quotidien français. Et Michel Fouché, géographe titulaire de la chaire de géopolitique appliquée au Collège d'études mondiales de la Fondation Maison des sciences de l'homme. Nous avons terminé la première partie de l'émission autour de la question de la démocratie aux États-Unis. Je rappelais simplement que l'exécutif américain avait tendance à élargir son autonomie avec un congrès qui est opposé au lâchage des alliés kurdes et le pouvoir américain qui a ignoré donc les rapports successifs du Pentagone sur la résurgence de l'État islamique. La question qui se posait était de savoir si la démocratie américaine était en train d'être détruite. Et Thierry de Montbrial évoquait le risque sur le respect de la Constitution américaine. Renaud Girard.
Non, moi je ne crois pas. Je crois qu'il y a effectivement des turbulences sur la démocratie en Amérique, mais aussi d'ailleurs en Europe, dans beaucoup de pays d'Europe, c'est évident. Le débat est plus dur, mais vous savez, le débat entre les deux guerres mondiales, par exemple, était extrêmement dur. Il y avait des positions américaines qui ont été extrêmement féroces, par exemple l'abandon total de l'Europe, de la France et de l'Angleterre qui essayaient de ramener la démocratie, de combattre le nazisme, le désintérêt total aux États-Unis pour la persécution des juifs jusqu'à très tard, n'est-ce pas, dans la guerre. Donc on a eu des périodes très dures, mais je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est la démocratie américaine, et surtout, Thierry l'a dit, la constitution américaine est très forte. Et je me souviens de la première conférence de presse du président Obama en mars 2019, on m'avait envoyé à Washington, je lui ai posé une question, parce que c'était à l'époque où le directeur de la banque centrale chinoise avait fait un article très remarqué par tout le monde, qui disait que c'était la fin du dollar comme monnaie de réserve et d'échange mondial, il fallait le remplacer par une sorte de droit de tirage spécial du FMI. Et je lui ai demandé, monsieur le président, est-ce que vous croyez que c'est la fin du règne du dollar comme monnaie d'échange et de réserve mondiale ? Il m'a fait une réponse politique, c'était très fort. Il m'a dit, non monsieur, je pense que ce n'est pas la fin du dollar comme monnaie de réserve mondiale parce que nous sommes le pays politiquement le plus stable et le plus transparent du monde. Et c'est tout à fait vrai. C'est pour ça qu'en dernier ressort, les gens ont encore confiance dans les États-Unis parce qu'on comprend comment marche la démocratie américaine, les check and balances, les contre-pouvoirs. On comprend comment marche aussi l'économie américaine, les sociétés américaines. Personne ne sait quel est le bilan d'une banque chinoise ou d'une compagnie d'assurance chinoise. Personne ne sait, ne connaît l'endettement réel des ménages ou des entreprises en Chine. Personne ne sait comment fonctionne le comité des 7 en Chine. Vous savez, le comité le plus haut, ou si Xi Jinping a tous les pouvoirs, ou si de temps en temps il demande vraiment son avis aux 7. Personne ne le sait. Aux États-Unis, tout le monde comprend comment marche la démocratie américaine. Et je pense d'ailleurs qu'elle montre sa force, puisque il y a eu des élections quand même à midterms, qui a ramené à la Chambre des représentants une majorité démocrate, bon, qui mène une vie très dure au président. Mais je ne remarque pas, à part effectivement, comme on l'a dit, dans la diplomatie, une tendance à ne plus respecter le multilatéralisme. Et c'est une tendance, comme l'a dit Thierry, qui est bien plus ancienne que de Donald Trump. Donc effectivement, un mépris des alliés et un mépris du monde extérieur, mais ça ne veut pas dire pour moi qu'il y ait un affaiblissement en tant que tel. Il y a un affaiblissement de l'influence mondiale des États-Unis, mais il n'y a pas un affaiblissement en tant que tel de l'Amérique comme pays puissant et comme pays prospère.
Michel Fouché, entre ce que Thierry Montbrial a évoqué et Renaud Girard à l'instant sur les États-Unis.
Compte tenu de l'importance des États-Unis, pas seulement en termes de politique extérieure, économie, finance, mais de référence. C'était la référence du monde occidental, c'est la référence d'une partie de la jeunesse chinoise aussi. Ça devient, avec ce président, une référence négative. Alors, on ne parle plus de leadership aujourd'hui aux États-Unis, vous avez remarqué. Mais le leadership est négatif et il fait des émules. Regardez les interventions de Trump sur le Brexit. Johnson est un petit Trump qui décrédibilise le Parlement. Bolsonaro, Salvini. Et donc c'est intéressant parce que le populisme, il y a des débats chez les politiques, c'est pas tellement une idéologie, heureusement pour nous, on n'est pas dans les années 30 de ce point de vue-là, mais c'est un style. C'est un style de communication permanente et on communique pour son électorat, on ne gouverne pas. Le bilan de décision de l'administration Trump est le plus faible depuis, je ne sais pas, 30 ou 40 ans. On ne gouverne pas, mais on occupe le terrain tout le temps. Alors en même temps, par rapport aux États-Unis, Thierry le sait, il y a des écoles, il y a eu l'école réalisme avec Wilson, il y a eu l'école interventionniste libérale et néocon, et il y a une école qui progresse, dont on parle très peu, c'est l'école de la retenue. C'est Posen, c'est Mersheimer, c'est quelques autres, notamment Harvard qui dit...
On est réaliste pur.
Oui,
hein.
On est surexposé, il faut diminuer les budgets de la défense et il faut faire ce que souhaitait Obama quand il lui parlait de l'Afghanistan, nation building, d'accord, ça commence à la maison, nation building at home, parce que c'était l'enfant de Chicago Sud qui parlait, l'animateur social. Et ce courant-là, il existe aux États-Unis et il va se développer parce que il y a un désespoir social dans une partie de la population aux États-Unis, l'électoral Trump, et certains sont conscients qu'il faut en quelque sorte réinvestir, il faut faire un peu de social-démocratie, si vous voulez, avec l'argent de la défense.
Renaud Girard.
Michel, sur Trump n'a rien fait, il a fait une chose que personne n'avait fait avant lui, c'est qu'il a dit très clairement au sommet de Davos aux Chinois, maintenant, messieurs les Chinois, vous arrêtez de voler la technologie. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et d'ailleurs, dans son pays, il bénéficie d'un soutien bipartisan pour cette politique.
Alors l'Europe, si vous voulez bien, Thierry Monbrial, je me tourne vers vous. Après les élections du printemps dernier, la Commission européenne tarde à se mettre en place. Cette semaine a vu le rejet par les eurodéputés de la candidate française pour la Commission. Est-ce que la France est en train de perdre sa position de maillon fort en Europe? C'est une question. En tout cas, le 1er novembre prochain, qui devait voir la mise en place de la Commission européenne et l'entrée en vigueur du Brexit, cette date ne constituera pas le tournant que l'on pensait au départ. Votre regard sur la crise du Brexit, c'est un échec de l'Union européenne ou du Royaume-Uni ?
Il y a plusieurs dimensions dans tout ça. Bon, premièrement, je considère que le pire n'est jamais sûr. Il faut toujours se préparer au pire. Mais je considère que les élections européennes, d'une part, et la composition de la Commission, malgré les incidents et notamment le rejet de Sylvie Goulard, je crois que tout ça est presque un miracle. Il y a quelques mois, beaucoup s'attendaient à bien pire. Donc, je trouve qu'il y a quand même eu plutôt un sursaut européen. Voilà, ça c'est le point numéro un. Le point numéro deux, c'est que le Brexit, c'est la manifestation la plus forte du déclin, non pas de l'Europe, mais de la Grande-Bretagne. Et je pense que le jour où la reine Elisabeth II disparaîtra, on s'en apercevra, parce que pour l'instant, la reine Elisabeth II, elle a réussi à conserver la Grande-Bretagne, sa dignité. Vous savez, cette fameuse différence que faisait Bagehot au XIXe siècle entre le dignified et le efficient, n'est-ce pas ? Le dignified étant la place de la monarchie, à la limite, le pouvoir absolu dans l'ordre du dignified, c'est d'avoir zéro pouvoir dans l'ordre de l'efficient, et l'efficient, c'est le gouvernement. Bon. Or là, la reine, on s'apercevra, là je fais une prédiction, c'est que le jour où Elisabeth II disparaîtra, on prendra brusquement conscience du déclin anglais, parce qu'elle a conservé, Elisabeth II, une sorte de halo victorien au bénéfice de la Grande-Bretagne. Et en fait, ce qui se passe en Grande-Bretagne, c'est la déliquescence de ce qui était pour tout le monde, la première démocratie du monde à certains égards. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et moi je crois que cette histoire de Brexit depuis le début, c'est à mettre au passif de la Grande-Bretagne, pas de l'Union européenne. Et je crois au contraire que l'Union européenne, et il faut saluer quand même le travail de Michel Barnier entre autres, a beaucoup mieux résisté que je ne le craignais. Et dernière remarque, aussi étonnant que ça puisse paraître, leur vieux réflexe européen, c'est-à-dire quand on est au bout du gouffre, quand on s'aperçoit qu'ici il y en a un qui fait le pas pour tomber dans le gouffre, il entraîne tous les autres, ça continue assez bien de fonctionner. Où est-ce que vous entendez aujourd'hui, à l'intérieur de l'Union européenne, dans la partie continentale, où est-ce que vous entendez un pays demander à sortir de l'Union européenne? Nulle part. Donc je crois qu'il faut regarder tout ça sans excitation, et moi je vois plutôt les choses dans leur côté positif.
Vous partagez, Michel Fouché, Renaud Girard, le côté positif de Thierry Monbrial.
Je partage le constat sur l'Angleterre. C'est depuis Guillaume d'Orange, depuis trois siècles, en fait, la politique britannique reposait sur deux piliers. Le premier pilier, c'était qu'il fallait toujours garder un pied en Europe. Et le deuxième pilier de la politique britannique, c'était l'unité des îles britanniques. D'ailleurs, leur pays s'appelle comme ça United Kingdom, Royaume-Uni. En une nuit, ils ont mis tout ça par terre. C'est historiquement
absolument fascinant. Quant à l'Europe, moi je pense, comme Thierry, qu'elle sait en fait se réparer. Et d'ailleurs, il y a eu quelque chose d'assez important qui a eu lieu vendredi, je crois, qui était le déjeuner à l'Élysée entre Viktor Orban, le Premier ministre extrêmement fort et populaire chez lui, hongrois, et Emmanuel Macron. Ils n'ont pas du tout les mêmes visions, mais ils sont capables de se parler. Et ça prouve d'ailleurs un tournant réaliste que je trouve bienvenu de la part de Emmanuel Macron. Il faut prendre les réalités telles qu'elles sont. On ne va pas changer le groupe de Visegrad, on ne va pas changer la Hongrie. Orban est très populaire chez lui, malgré une union actuelle entre la gauche et l'extrême droite hongroise. Il va sans doute quand même gagner les élections. Eh bien, Emmanuel Macron a dit, malgré nos désaccords qui sont importants, nous allons parler, et c'est ça qui compte. Évidemment, la France a eu une petite gifle avec... Elle était d'ailleurs imprudente de proposer Madame Goulard, qui avait deux problèmes connus. D'ailleurs, là, les députés ont dit non. Et puis, il faut savoir comment fonctionne un Parlement. Hein. Les parlementaires sont libres.
Madame Goulard, qui au demeurant avait la préférence de la présidente de la Commission.
Voilà. Mais en revanche, je pense que ce choix n'est pas un mauvais choix. On verra Madame Ursula à l'œuvre. Mais je pense que l'Europe, effectivement, dans la bonne direction. Et puis, il faut quand même se souvenir de quelque chose. Il y a 10 ans, tout le monde nous disait, mais l'euro, c'est fini, il y a la crise, etc. Ah ben, l'euro, c'est pas fini du tout. À ma connaissance, l'euro n'arrête pas de progresser comme monnaie de réserve ou comme monnaie d'échange mondiale par rapport au dollar.
Une phrase, si vous permettez, c'est que l'euro est devenu la colonne vertébrale de l'Union européenne. Et ça, c'est la grande réalisation du traité de Maastricht. Parce que aujourd'hui, si l'euro disparaissait, c'est là, pour le coup, toute l'Europe qui commencerait, l'Union européenne qui commencerait à disparaître. Il faut le souligner au passage. Et les erreurs, je crois, on en parlera peut-être, des États-Unis qui utilisent le dollar de plus en plus comme arme politique, c'est qu'ils vont favoriser, justement, ils vont accélérer la transformation. Le chemin sera encore long, hein, techniquement, mais de la transformation de l'euro en monnaie internationale de réserve.
Michel Fouché.
Oui, je suis tout à fait sur la même ligne. Brexit, c'est une réaction du nationalisme anglais face à ce sentiment de déclin qui est relatif, mais qui peut pas être réglé en transformant la City en Singapour sur Tamise, en cassant les taxes et tout ça. Ce qui me frappe, c'est cette prise de conscience du contexte international qui se durcit. Parce que pour avoir une politique extérieure, les Européens sont condamnés au double standard. On peut pas traiter Macron-Merkel, Macron-ci, c'est pas du tout le même registre diplomatique. D'un côté, on fait du compromis, de l'autre côté, on n'a plus rapport de force. Et donc, jusqu'à maintenant, on savait pas le faire. Et ce contexte nous oblige à resserrer les rangs sur quelque chose qui n'est plus seulement les valeurs, ça c'est mon grand reproche au PPE, hein, mais les intérêts. On les a toujours sous-estimés, et je me réjouis que Joseph Borrell, avec qui j'ai fait une mission sur les problèmes migratoires en Sénégal avant qu'il devienne ministre, ce qui l'a un peu aidé ensuite, a dit, dans sa première déclaration au Parlement, il est temps que les Européens parlent le langage du pouvoir. Alors après, on va voir ce que ça donne, parce que les États sont divisés, mais justement, Orban, d'abord, je trouve qu'on devrait arrêter de le condamner en permanence et de parler ça tous les jours. Et c'est ignorer l'histoire propre de ces pays d'Europe centrale et baltique que de penser que des gens qui ont vécu sous le système soviétique, à qui on a pris les deux tiers du territoire en 1920, n'avaient pas encore une fibre nationaliste. Mais on le voit aussi dans l'ex-RDA. Ils n'ont pas été dénazifiés. Ils ont été soviétisés. Ils n'ont pas eu, pour parler comme Romain Gary, d'éducation européenne. Même Madame Merkel n'a pas d'éducation européenne. C'est une Européenne de raison. C'est la différence avec peut-être son successeur, si c'est elle. Et donc, je pense qu'en effet, comme le dit Renaud, là, on est plus réaliste sur le fait qu'on a des intérêts, quelques intérêts communs à défendre. Ça ne veut pas dire qu'on va progresser en matière de défense européenne, parce que là, finalement, on appliquerait l'instruction qui vient de Washington. Quand vous regardez en détail la composition du Parlement, je vous rappelle que en mars 2018, hein, pour le projet pilote du Fonds européen de défense, il y a plus du tiers des députés européens qui ont voté contre. Le SPD, Les Verts ne sont pas du tout favorables à un effort de défense. Et maintenant, j'estime que c'est à peu près 50-50. Mais c'est une bonne chose que le Parlement se soit renforcé.
Alors, quelques mots pour terminer avec vous, Thierry de Montbrial. Vous avez ouvert la World Policy Conference avec le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Amadou Gonkoulibaly, qui s'est déclaré particulièrement inquiet à deux niveaux. D'une part, montée du protectionnisme et son impact sur l'Afrique, et dégradation de la sécurité en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Sahel.
Il a raison, parce que d'abord, le problème du protectionnisme, c'est une conséquence d'une guerre commerciale non maîtrisée, si tant est qu'on puisse maîtriser une guerre commerciale. Tout à l'heure, on a dit, et je suis d'accord avec Renaud là-dessus, que Trump a eu raison de donner un grand coup de poing sur la table concernant la Chine dans les domaines commerciaux et surtout de technologie, etc. D'ailleurs, c'est une crise qui devait venir à un moment ou à un autre. Ça n'aurait pas été Trump, ce serait venu sous une autre forme. Ce qui est très dangereux, c'est que les pratiques, on en revient à la diplomatie de M. Trump, sont telles qu'il y a un risque, en effet, d'escalade, de montée du protectionnisme. Et tout le monde en subit déjà les conséquences, en particulier l'Afrique. Oui. Bon. En ce qui concerne le Sahel, moi je trouve que le Premier ministre Koulibaly a très bien dit les choses. Il y a eu d'autres interventions, en particulier du M. Chambas, qui est le représentant de l'ONU sur l'Afrique de l'Ouest. C'est que la communauté internationale, toujours entre guillemets, la communauté internationale, se désintéresse essentiellement de la situation. Et la France est terriblement seule face aux rivalités, par ailleurs, qu'il y a entre les pays de la région, y compris à l'intérieur, d'ailleurs, de chacun de ces pays. Or, je crois qu'il a tout à fait raison, et je crois que nous sommes beaucoup à penser ainsi, si on perd totalement le contrôle des pays du Sahel, c'est une atteinte majeure aux intérêts, évidemment régionaux, mais aux intérêts européens en matière de sécurité. Donc je crois que l'appel qu'a lancé Koulibaly ce matin et d'autres est un appel très important.
Très rapidement, Thierry Montbrial, faut-il une intervention internationale ?
De toute façon, le militaire est au service de la politique. Il faut commencer par avoir une prise de conscience et une stratégie claire, sûrement avec un appoint militaire, mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'introduire de très très grands moyens pour résoudre la question si il y a une stratégie cohérente et qui, au moins en principe, est possible.
C'est une question de gouvernance.
Michel Fouché.
C'est une question de gouvernance. J'ai parlé de l'État. Hein. Alors je fais confiance au Premier ministre Koulibaly, l'ancien maire de Korogo, dont l'arrière-grand-père était le roi des Sénoufos. Donc il est tout à fait capable de prendre en compte ce qu'ils ne font jamais publiquement, en fait, les racines endogènes des difficultés. Hein. Ça n'est plus lié du tout, ce qui se passe au Mali, au Burkina, à des affaires djihadistes issues de Libye ou de Syrie. C'est un argument qu'ils utilisent pour... Mais en fait, c'est des problèmes de... L'État est distant dans un certain nombre de régions de l'Afrique. Et c'est là qu'il faut agir. Surtout, c'est plus l'AFD que l'État-major des armées.
Rapidement, René Girard.
Oui, il faut surtout laisser les Africains décider d'abord par eux-mêmes et s'entendre par eux-mêmes. Nous avons fait, nous Français, du temps de Sarkozy, une grave faute. C'est lorsque nous sommes intervenus trop tôt en Libye, alors qu'il y avait des discussions menées par l'OUA à Tripoli, avec 5 chefs d'État africains qui menaient des discussions pour qu'il y ait une sorte d'arrangement à l'amiable entre le régime de Kadhafi et Benghazi. Et nous, par notre intervention militaire mal maîtrisée et qui n'avait pas prévu les conséquences, nous avons mis, il faut le reconnaître, un énorme désordre dans tout le Sahel, dans toute cette région. Et donc, nous aurions été bien avisés d'écouter d'abord les conseils de l'OUA et des missions de l'unité africaine.
Merci. C'est la fin de Géopolitique, enregistrée donc à la World Policy Conference qui se tient ce week-end à Marrakech. Je rappelle que vous êtes Thierry Montbrial, le fondateur de cette WPC et président de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Michel Fouché, géographe et titulaire de la chaire de géopolitique appliquée au Collège d'études mondiales de la Fondation Maison des sciences de l'homme. Et Renaud Girard, grand reporter, éditorialiste au Figaro. Renaud Girard, dont on retrouve la chronique internationale tous les mardis dans le Figaro. Géopolitique a été signée Marie-France Chatin et Bertrand Éclair à Marrakech. Nathalie Laporte à Paris. À demain.